Bienvenue à la French Connection, épisode 156. Cette fois-ci, je suis avec Patrick.
Hey, salut tout le monde.
Qui est en sol américain quand même. Et puis vit de façon très, très risquée, je trouve.
Très risquée. En fait, c'est le meilleur moment pour se promener en avion. C'est safe, en maudit. Il y avait 4 personnes sur mon vol et 4 employés, si on peut dire. À la sécurité, il y avait 0 personne. Dans l'aéroport, j'en ai croisé 3, je crois. C'était ridicule. J'ai pris des photos. On pourrait même éventuellement en mettre sur le site pour rire. Mais voir l'aéroport de Montréal vide comme ça, là, c'est comme un film de zombies. C'est spécial.
C'est assez particulier, oui, mais en tout cas, ça contraste par rapport aux nouvelles qu'on voit aux États-Unis où les avions sont pactés avec du monde qui ne respectait pas le port du masque et la distanciation.
Oui, exact. Non, j'ai pas rencontré ça. Même en débarquant à l'aéroport aussi, c'était très. Tout le monde respectait. Là. J'ai rien vu de spécial. Dans les rues, ça n'est presque l'inverse. Le monde porte les masques et ils sont seuls au milieu d'une rue. Je trouve presque ça drôle. Mais c'est ça. Les nouvelles sont terribles, mais c'est pas la majorité qui sont aussi imbéciles.
C'est très bien. Puis c'est justement, c'est un beau lien avec le fait qu'on est encore en COVID. Encore, les gens en sécurité ont tendance à travailler de façon plus que d'habitude. Il y a le channel Slack du Hackfest si vous avez des inquiétudes, un peu d'anxiété encore face à cette situation-là. Quoique je pense que ça doit être pas mal passé. Puis pour ramener un peu à ce que tu disais, ben portez des masques, lavez-vous les mains, respectez la distanciation, puis lisez les maudites statistiques. 70%, si c'est seulement de ceux qui n'ont pas le virus qui, en termes de contagion, ça tombe à genre 5%. Si celui qui est contagieux porte le masque, ça tombe à 1% de contagion. Si les deux portent le masque.
Man, sur mon Twitter, le monde s'estinait comme quoi il n'y a pas de recherche qui prouve que le masque, c'est efficace. Bande de tweets. Mais alors, mets-toi la main devant toi, là. Ça bloque-tu une partie? Oui. Ça bloque-tu 100%? Non. That's it.
Merci. Respectez ça. Respectez ces éléments-là, parce que si on ne le fait pas, puis les nouvelles commencent à nous laisser pour présager au Québec aussi, on se redirige vers un autre confinement. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc, s'il vous plaît, respecter celle-là. Donc, commençons puis justement par une première nouvelle à ce sujet-là, qui est axée sur ce genre de choses-là. Québec demande une consultation publique pour les applications de tracing. Je sais que Mila aussi, qu'on a déjà parlé dans un ancien podcast, ouais, qui soulève quand même certaines préoccupations.
Oui, en fait, c'est quoi, mois d'avril, mai, Mila était très, très, très présent dans les nouvelles, même il payait de la pub dans les réseaux sociaux pour leur application, on n'a jamais compris le concept-là. Ils se sont fait refuser, dans le fond, l'application au niveau fédéral. Le fédéral a choisi Shopify et BlackBerry, qui est une application conjointe, qu'on n'a pas plus de nouvelles, le code n'est pas 100% public encore, l'architecture, rien de ça. Mais nous, on avait commencé à faire des demandes pour l'application Mila pour avoir accès au code source. Ils nous avaient dit oui, puis ça, c'est une initiative personnelle. Là. C'était pas vraiment le Hackfest en tant que tel. pas eu rien encore. Et ça fait plus qu'un mois et demi, je crois, que la demande a été faite. Ils nous ont répondu après-midi disant qu'ils attendaient l'autorisation de Mila pour publier le code source sur GitHub. Donc, on verra si Mila sont gentils ou s'ils sont des cachotiers pour leur code. Mila nous avait quand même donné, ouais, pas donné accès, mais ils nous avaient pointé sur un code public sur GitHub que eux ont comme forké pour faire cette application-là. Puis je crois que ça a pris une heure pour avoir le mot de passe de toute leur infrastructure via leur GitHub, là, tout était dedans. Donc, ça inaugurait vraiment, vraiment pas bien. Fait que c'est pour ça qu'on avait poussé pour avoir accès au code et on espère l'avoir pour voir le niveau de sécurité, voir s'il y en avait tout simplement dans ça.
Question, oui. Puis parce que j'ai peu suivi ça, est-ce qu'il y a une présomption de code de source ouverte avec leurs choses ou c'est vraiment juste dans un cas de faire bonne figure puis vraiment montrer qu'ils sont corrects?
C'est un peu mix dans le sens que au début, quand on a fait les démarches, on a moi puis un gars que je connais pas, je l'ai rencontré sur la Slack de Mila. En fait, on a joiné un Slack de Mila, puis on s'est mis à poser des questions de sécurité. La première question, puis c'était même pas une question, c'était plus hey, avez-vous pensé à telle affaire? T'sais, c'était très une question ouverte avec un URL comme ça. Je me suis fait revirer de bord, très direct, disant qu'il n'avait rien à foutre de notre opinion et de la sécurité. Je dis ouf, ça part très bien. Évidemment, quand ça s'est mis à être dans les nouvelles à tous les jours comme quoi que c'était important la sécurité et la vie privée de leur application, ils ont changé d'idée un petit peu. Puis là, ils disaient que oui, ils allaient rendre ça public et blablabla. Mais je pense pas que c'était leur leur initiative là, de départ. Puis pour avoir vu l'équipe qui travaille dessus, le code qu'ils produisent, je veux dire, il n'y a aucune équipe de sécurité, il n'y a aucune personne en sécurité là-dedans. Mila, dans Element AI, qui est comme l'entreprise en dessous de Mila, qui est comme l'école ou l'OBNL, je pense qu'il y a 2-3 personnes en sécurité, mais il n'y avait pas l'air d'être sur ce projet-là. Puis l'autre partie, ça c'était pour la partie machine learning. Fait que tu sais, c'est comme le back-end qui analyse le data. Fait que c'était pas ce qui était front sur les applications mobiles. L'application mobile, ça, c'était développé par Libéo à Québec. Puis eux ont carrément 0 personne en sécurité. Mais le pire dans ça, c'est qu'ils ont décidé de réinventer la roue en inventant un nouveau protocole de courriel. Puis je sais pas si quelqu'un ici a déjà configuré un protocole de courriel, juste du SMP bien de base, là. Mais c'est le bordel, c'est compliqué. Là. C'est pas facile de faire du courriel. Et eux ont décidé de réinventer le protocole en arrière pour faire la transmission, dans le fond, de toutes les datas vers un serveur de courriel, entre guillemets. Puis quand tu es infecté, puis tu ajoutes ça dans l'application, ben là, ça va fetcher, dans le fond, toutes les ID Bluetooth, puis ça dit, ah oui, tu as rencontré un infecté, puis ça le poste à tout le monde, ça le broadcast. Et ça s'annonce pas très bien.
Juste question de technologie, pourquoi ils n'ont pas dû du XMPP, par exemple, ou du SMTP pour faire ce genre de transaction-là?
Tu sais, nous, on s'est fait expliquer ça dans une rencontre là, téléphonique vidéo. Je n'ai pas challengé, j'ai juste écouté, mais c'était épeurant à écouter, mettons. Fait qu'eux ont été refusés au niveau canadien parce qu'ils utilisaient en plus le protocole de NHS qui s'est fait démolir publiquement en Europe, comme quoi que c'est aucune vie privée, la sécurité est très faible, etc. Donc, Shopify utilise le protocole de Google et d'Apple qui considère les choses de la vie privée puis de la sécurité. Je veux dire, ils savent ce qu'ils font. Les ID Bluetooth sont random, sont anonymisés, etc. Ça change aux 15 minutes versus l'autre que c'est ton ID puis tu es capable de le traquer partout. Même dans le document qu'on avait parlé, je pense que c'était en avril, le document de Mila expliquait que c'était possible de stalker du monde. C'est dans leur propre document, ils disaient ça. Fait que c'est quand même bien que ce soit fait dans ces deux-là. Mais ça reste que même si Shopify a été choisi avec le bon protocole, ça ne veut pas dire que la configuration, la mise en place, le déploiement, etc., c'est bien fait. Ça ne veut pas dire que les serveurs en arrière sont bien faits. Ça ne veut rien dire. Fait que là, le gouvernement du Québec, puis vous irez dans les liens, puis je pense que c'est super important, allez remplir le sondage. Dites-là votre opinion, que vous soyez pour ou contre, là, ça n'a pas d'importance. Mais allez dire ça, puis surtout, nous, ce qu'on pousse, c'est que, regarde, si vous êtes absolument pour faire une application, au pire, choisissez elle qui utilise le bon protocole. Allez pas prendre le concept de NHS qui s'est fait démolir. Prenez Google, au minimum. Mais ce qui n'est pas dans la page web, là, parce que quand on va sur la page web, il explique qu'est-ce que l'application fait. Fait que ça dit l'application sera gratuite, utilise la technologie Bluetooth afin d'identifier là, aléatoirement les autres téléphones à proximité, blablabla. Donc, ça n'utilise pas le GPS. À date, tout le monde fait ça, c'est correct. En cas que tu deviens positif, ben le docteur te donne un genre de token, un code unique que tu mets dans l'application ou non, c'est volontaire. Fait que déjà là, tu sais, c'est déjà moyen. Fait que, tu sais, c'est volontaire d'utiliser l'application, volontaire de déclarer que tu étais malade. Les personnes qui reçoivent une identification savent pas c'est de qui, évidemment, là, parce que c'est juste des ID qui switchent tout le temps, considérant qu'ils utilisent le bon algo. L'application qui donne des accès, blablabla, les infos rapides, etc. Mais ce qui est quand même drôle, puis c'est une des choses qu'on a dit souvent, puis ils le disent dans la page, ce que je trouve quand même bien, c'est qu'évidemment, il est à noter que l'application ne tiendra pas compte de certains contextes. Le Bluetooth ne peut pas détecter que la personne a un masque, qui est derrière un mur, ou qui est derrière une vitre, une allée d'épicerie, peu importe. Fait que, même dans la définition même, puis ça, on en a déjà parlé, je l'ai mis sur les Facebook du Access et autres, l'application est inutile. Je veux dire, si t'es pas capable de savoir si la personne était proche, parce que le Bluetooth est pas fiable, puis vous pouvez faire le test avec des applications, là, votre Bluetooth, en étant assis sans bouger pendant une journée, sa force va changer de manière random toute la journée. Fait que si vous êtes assis puis que vous détectez quelque chose à 2 mètres puis de 5 minutes après, il est à 1 mètre puis il n'y a rien qui a bougé, je vois pas pourquoi qu'on ferait cette application-là. Mais bon, ça, c'est moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que le gouvernement tente de savoir. Fait que allez donner votre opinion. Fait que s'ils utilisent ça, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est juste une ouverture vers de la surveillance. C'est juste ça. Parce que l'application, on le sait qu'elle n'est pas efficace. Ça a été prouvé dans des dizaines de pays, dans plusieurs États. On le sait d'avance que c'est pas très utile. Fait que s'ils la mettent en place, sachant ça, ben qu'est-ce qui reste comme choix? Le simple fait de pouvoir avoir des données sur la population. Ce qui vient à la question...
Il y a beaucoup cet aspect-là. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire avec ça? Puis, d'ailleurs, en se parlant, je me suis rappelé que j'avais lu un blog de ProtonMail qui, justement, analysait plusieurs des protocoles, puis justement, disait, puis a détruit certains, comme tu mentionnais. Et, bon, on ne disait pas à quel point le protocole, disons, Apple, Google était excellent, mais dans lequel il donnait les cadres exacts dans lesquels ces différents protocoles-là existaient et dans quelle mesure ils protègent et dans quelle mesure ils ne protègent pas la vie privée des informations.
Je ne dis pas qu'il est excellent. Mais il est meilleur que toutes les autres à date. C'est surtout ça le point. T'sais. Pourquoi prendre un autre quand tu sais qu'ils sont tous moins bons que celle-là? Mais évidemment, c'est rien de parfait. Là. Mais la question qui reste, c'est ça, c'est l'utilisation des données. Considérant que tout le monde sait que l'application est inutile, que Bluetooth n'est pas efficace pour ça, puis si ça se met en place, puis il y a du monde qui l'utilise parce qu'il croit que hein, pourquoi pas un moyen de plus, parce que c'est ça que tout le monde commente à chaque fois que tu dis quelque chose. Oh, c'est pas grave, une manière de plus. Une manière de plus qui donne un faux sentiment de sécurité, je pense que c'est pas une bonne idée, mais bon. L'affaire, c'est les données. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qui va avoir accès? Pendant, puis après la crise. On va-tu les supprimer? Il n'y a pas nulle part sur ce gouvernement qu'on parle « Ah, oh, on va supprimer les données de manière précise, à telle date, blablabla, ou de telle manière. » Il n'y a rien là-dessus. Puis le qui? Ça va-tu être soumis à plusieurs agences gouvernementales, provinciales, fédérales, les entreprises privées? Parce que là, s'ils utilisent l'application de Shopify, ça va tomber dans leur serveur. Puis même sur papier, ils disent « Ouais, ouais, on ne leur touchera pas, ça reste dans leur serveur, il va y avoir des admins. » Ça va loin, là. Puis, tu sais, Mila ou même eux autres, là, dans leur gestion des données, ils avaient accès à tout ça. Puis le but, c'était qu'ils l'utilisent. C'est un OBNL. La seule manière qu'ils survivent, c'est en utilisant les données du monde, de leur projet, pour faire de la revente ou de la réutilisation après. Fait que très dangereux comme initiative, je crois. Mais bon.
Ouais, ça. Puis, pour, mettons, œuvrer dans certaines entreprises, ou en tout cas chez certains clients, les préoccupations de conservation sont intéressantes parce que dans les entreprises commerciales, entre autres comme celle-là ou au BNL ou peu importe, là, l'usage de l'information et sa propriété est très importante. Puis là, on est en bas dans des zones où on doit faire confiance aveuglément à des entreprises qui ne nous ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça. Et ce débat-là, puis probablement plusieurs vont reconnaître des choses qui ont été discutées ad nauseam. L'info nuagique, puis qui peut toucher à nos informations? Est-ce que, comme entreprise, si je vais dans l'info nuagique, est-ce que le fournisseur info nuagique va respecter le côté privé de mon information, donc n'ira pas jouer dans mon information? Et c'est un débat qui est souvent très présent dans l'adoption de l'info nuagique. Puis là, on embarque dans ce genre de choses-là, mais d'un point de vue citoyen, puis on s'en balance. Quand les entreprises sont frisées.
C'est pas le point numéro un quand ça devrait l'être, là. C'est clair qu'on s'en balance. Puis, tu sais, c'est pas juste. Oui, c'est ce que tu dis, mais c'est aussi la donnée supposée de t'appartenir. Fait que t'es supposé d'avoir accès, savoir qui a accès, où est-ce qu'elle est. Puis comment je peux la supprimer au moment que je désire? Il n'y a pas une ligne à nulle part dans toutes ces applications-là qui parle du traitement de la donnée. Jamais.
Ça, puis même au niveau canadien, puis FEDA, même si c'est une loi qui est, somme toute, relativement désuète, elle couvre quand même le fait que l'information, elle est, tu es le propriétaire de ta propre information, peu importe où elle se trouve. Donc, effectivement, tu peux exiger la correction de ton information dans une base de données tiers. Parce que c'est, on fait quoi avec ça? Donc, c'est un peu flou tout ça.
Puis là, ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup pour la vie privée, ces applications-là. Fait que c'est comme, oh oui, on va tout randomiser. OK, c'est randomisé, on ne sait pas qui est qui, mais supprime mes données. C'est je suis qui? Même si mon info est random, je suis supposé être capable de l'effacer. Fait que tu sais, c'est pas. On n'est pas rendu là, là.
Ouais, puis il y a tout cet accès-là. Puis là, même si Google et Apple ont fait des énormes efforts, puis je pense à Apple, Apple travaille très fort sur ce qu'appelle, je pense, le differential privacy, qui est une façon d'anonymiser, mais en tout cas, bref. Mais au bout du compte, tu n'es jamais capable d'analyser jusqu'à 100%. Puis le meilleur exemple qu'on a qui est pu documenté, c'est celui de Netflix. Quand Netflix a diffusé l'ensemble de sa base de données pour réussir à aider à améliorer ses algorithmes, il y a quelqu'un qui a quand même réussi, à travers l'information anonymisée, à faire retracer quelqu'un à travers ça. Fait que même si on est anonyme jusqu'à un certain seuil, c'est sûr qu'on va tenter de trouver une façon...
Donc, on est capable de savoir ce que la personne aime ou des détails du genre, même si c'est pas, ça pointe pas vers quelqu'un, tu peux retracer. Vous avez même le réseau Tor, c'est une des méthodes très niveau universitaire, là, on s'entend, qui est utilisée pour retracer du monde sur le réseau Tor. C'est en checkant les paquets dans un réseau normal, mettons de plusieurs citoyens, puis de voir la tendance des paquets, puis tu es capable de savoir qui fait du Tor, puis quel Node utilise, sans savoir c'est qui du tout. C'est juste un concept de statistique, finalement. Ta statistique te dénonce. C'est ça qui est fou.
Ah oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, faut prendre ça avec un énorme grain de sel. Puis, ben, au bout du compte, puis comme tu disais, qu'on soit pour ou contre ces choses-là, il faut mettre son opinion. Puis, il faut avoir un débat éclairé et, de société face à ce genre de choses-là. Puis, même en même temps, tant qu'à aller dans cette direction-là, des États comme Israël qui ont été très forts sur le tracking du COVID, puis qui ont eu un certain succès au début, ce succès-là s'est vite tassé, puis ont perdu aussi d'ailleurs des certaines capacités de tracking là, avec le temps. Là. Mais ça
n'a oui,
pas un gage de succès sur la capacité de limiter la propagation du COVID. Lavez-vous les mains, mettez-vous un masque.
Non, c'est ça. Cette application-là, même si elle fonctionnait, puisque le Bluetooth, mettons, qui était parfait, là, ne sert pas à réduire la propagation. Ça sert à retracer les infectés par après. Qui a vu, qui a croisé. That's it, là. Il n'y a pas d'affaire à la propagation là-dedans, même par défaut, mais on essaie de pousser ça en disant d'autres choses des fois.
Moi, je t'en avais dit, c'est juste un trip de gens.
Ah, c'est un trip techno.
On finit chez eux.
Oui, je l'ai repoussé même cette quote-là aujourd'hui, même sur LinkedIn. Mais je pense que le point le plus positif, comme tu viens de dire, c'est que le gouvernement est ouvert à vous entendre, puis c'est rare. C'est les rares gouvernements qui nous ont demandé notre opinion. C'est pas la première fois qu'ils le font. Fait que allez faire ça.
Oui, puis c'est une tribune. Puis Steve est très fort sur l'expression du citoyen face à son député ou face à ce genre de choses-là.
Ah, mais ça marche. C'est leur job. Puis personne les contacte. C'est surprenant, là, mais je les ai contactés aussi pour d'autres projets post-sécurité. Hey, ils m'ont répondu en genre 2 jours, puis ça a poussé des projets super loin. Je me suis dit, mais voyons non. Mais oui, faites-le. Ça marche pour vrai. Là. Ils sont pas là pour rire de vous autres et vous écoutent si vous leur parlez. Mais c'est ça le problème. On leur parle pas.
Voilà, c'est un peu le problème du cynisme, mais ça, allez-y, allez jusqu'au bout. On est dans un système démocratique. C'est fait pour ça. C'est utilisé. Puis là, on a l'occasion de le faire dans ce cas-ci. Allez énoncer vos préoccupations de toute nature. Dans tous les sens. C'est fait pour ça. Puis après ça, ben, collectivement, on en sort toujours grandi ces expériences-là. Passons, puis là, on continue à battre le maudit.
Le cheval, il est mort.
Il est mort. ils vont encore le battre pendant des mois. Passons à la nouvelle suivante. Puis celle-là, moi, quand tu l'as mis, ça m'a fait beaucoup rire, mais on a découvert que TikTok, ça appartient à des Chinois. Puis Steve nous l'a déjà dit sur le podcast à plusieurs reprises. Et comme quoi, ça peut rentrer, ça peut avoir un certain aspect négatif sur notre vie privée.
Ben exact. Puis, tu sais, je l'ai mis en disant, hey, le Québec apprend un peu dans le sens qu'on se réveille qu'une application chinoise avec des utilisé pour faire de l'espionnage. Ouh. Bienvenue avec la Chine. Ce qui est drôle, c'est que le titre est que le géant, parce que TikTok est énorme là, avec des millions de personnes dessus, un milliard, presque, menace de bannir l'administration Trump parce qu'il représente une menace pour les entreprises québécoises. Donc, on est rendu loin, je veux dire, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui quand c'est quelque chose qui était dans les nouvelles, je crois, 2 mois, je crois, à peu près.
Ben, ça fait longtemps qu'on le sait, là.
Ouais, exact. Fait que c'est ça, c'est rendu au niveau fédéral, où ce que même des ministres là, de la Sécurité publique se sont fait questionner pour savoir s'ils allaient bannir l'utilisation de cette application-là. Évidemment, ils n'ont pas voulu répondre à ça, mais je veux dire, le sujet est rendu très haut. Je pense que, il y a quelques semaines, ça avait été démontré que l'application analysait tout ce que vous écrivez puis s'est envoyé sur les serveurs là-bas. Je veux dire, évidemment que ça envoie les infos là-bas, mais ça le fait à chaque 2-3 lettres. Là, ça copie votre keyboard puis ça envoie ça là-bas. Et il y a quelqu'un sur Reddit qui a fait l'analyse complète, puis que c'est une application d'espionnage. Là, toutes les features qu'il y a dedans, là, c'est, ça n'a pas été rediffusé beaucoup, là, ce Reddit-là, mais ça fait peur. Mettons, vous savez pas d'affaire à utiliser TikTok, vous faites d'autres choses. Pour votre entreprise, allez prendre votre application.
Je ne comprends pas ce que les entreprises font là. C'est à la limite des adolescents qui font des choses ou qui font même de la propagande politique à la limite. Là. C'est une plateforme drôle pour ce genre de choses-là.
Mais... Oui, il y a tellement de monde dessus que c'est comme Instagram. Là. Je veux dire, ils vont mettre de la pub là, mais en même temps, c'est pas juste la pub qu'ils prennent, c'est toutes vos données.
C'est un peu plus épouvantable, mais tant qu'il n'y a pas d'entreprise chinoise dans un contexte comme ça, Zoom, quand même, qui peut aussi ce genre de capacité-là. Fait, on est toujours dans un univers, puis...
Eux autres, on a eu la preuve officielle, en plus, là. Tu sais, même si ça fait quoi... C'est ça. Puis plein d'entreprises au Québec disent « Non, c'est sécuritaire, là. Ils ont engagé le gars de Facebook. » Hey, la Chine a demandé à Zoom de leur donner les données, puis ils l'ont fait, là. Fait que arrêtez de penser que c'est sécuritaire, Colin.
C'est drôle parce qu'ils sont frileuses de faire de la gestion de l'info nuagique, ils ont peur qu'accès
oui, à cette information.
C'est les mêmes entreprises, hein, qui.
Ah oui.
Fascinant.
On va pas dans le cloud, là. C'est vraiment dangereux pour nos données. Ah, mais l'application de la Chine donne-leur tout. Voyons donc. Nos informations confidentielles en meeting privé, recordées avec notre expression dans notre face. Je disais, come on.
Ouais, ben c'est ça. Dans un drôle de monde où la perception des choses est un peu déphasée. Là. Mais en tout cas, tout ça est relativement épique.
Quand même,
ouais. Parce que franchement, allô?
Oui.
Les dernières nouvelles, puisque là, clairement, on vit toutes les deux sous une roche. Il y aurait des ingénieurs de Yahoo qui auraient hacké 6000 comptes pour y trouver des photos pornographiques dédiées aux utilisateurs de qui ils ont hacké.
Oui, des comptes personnels, pas genre les célébrités et tout, là, juste 6000 comptes de personnes, possiblement, là, qui, je ne sais pas si c'était cute ou whatever selon leurs critères. Excusez, qui cherchait pour des vidéos et des images porno. Fait que c'est deux ex-employés. ça s'est fait, attends un petit peu que je retrouve la date exacte, entre 2009 et 2019. Pendant 10 ans de temps, ils ont ramassé de l'info sur des cibles potentielles pour ramasser jusqu'à 2 téra de données. Imaginez-vous.
Ouais, c'est énorme ce qu'on a récolté comme image et pas comme vidéo. Là.
Non, c'est ça, c'est gros. Ce qui est plate, c'est qu'ils disent qu'ils passent à côté de la prison. Fait qu'ils réussissent à s'en sortir en payant 5 000 piastres, puis ils doivent repayer jusqu'à 120 000 en dommages que vous ayez où.
Ah, c'est, non, ben, c'est ça, là, il y a comme un échec culturellement au niveau des lois américaines de protéger ça, parce que, tu sais, ça, rendu, c'est épouvantable comme, comme utilisation. Puis ils disent, comment, là, tu sais, on est dans une époque de free porn, là.
Il est pas fouillé, les affaires. Il y en a presque dans les rues, là. C'est limite, là.
Tu sais, come on. Puis,
c'était même pas un challenge de dire, hey, je vais réussir à trouver son mot de passe, je suis cool, je sais des techniques. Non, non, c'est un employé, il va dans le back-end, puis il se crée une session sur les utilisateurs. That's it. Fait que.
C'est épouvantable de. Quel crédit!
Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, faut au moins content qu'il faut qu'il paye 120 000. Là. Au pire, il fera faillite, mais ça manque une couple de journées de prison dans l'histoire.
Ouais, je trouve que la punition n'est pas à la hauteur du geste.
Non, exact. Surtout pendant 10 ans. C'est pas comme, oh, j'ai ouvert ça une fois sur un compte, ma première fois dans ma vie, donne-moi une tape sur la main. Mais non, 10 années complètes. Ouf, en tout cas.
C'est épouvantable. Puis ça, mais en même temps, je trouve que les pratiques de sécurité de Yahoo sont un peu déficientes parce que normalement, on aurait
dû faire
ce genre de choses-là.
Yahoo est pas réputé pour sa sécurité, mettons. Puis si vous faites du bug bounty, vous savez sûrement que c'est la cible la plus facile de faire de l'argent. Fait que ça va dans tous les sens. Ça a l'air à l'interne autant qu'à l'externe. C'est dommage, mais c'est ça. Ils sont vraiment pas. Ils sont pas là. Non, non.
C'est épouvantable en 2000, bon, en tout cas, là, c'est pas en 2020 que ça s'est passé ça, mais que dans les 10 dernières années, les compagnies, surtout publiques, exposées de cette nature-là, qui continuent à avoir des pratiques de sécurité médiocres, ça a juste pas de sens. En tant que utilisateur, ça me préoccupe parce que si on fait confiance à ces dites compagnies infonuagiques-là, en tout cas, au sens public, là, Google, Hotmail, et Microsoft, ces compagnies-là, qui en partagent, Flickr, puis ils font juste ça. Bleh.
Non, non, c'est vraiment pas super. Ça, c'est un peu comme l'exemple de Desjardins, qu'on disait que Desjardins était un des seuls qui investissait autant en sécurité. Ça vous donne l'image de toutes les autres qui n'investissent pas partout. Fait que, oui, ça fait peur et c'est très... très dommage de voir qu'on est là encore à se battre pour dire que c'est important.
Bon. On va arriver à quelque chose à un moment donné. Il me semble que c'est suffisamment d'exemples publics de ce genre-là, puis on va finir par y arriver. Là.
Je pense qu'on a des exemples. C'est juste la communication puis l'intérêt qui manque.
Oui, puis c'est un peu notre travail, nous autres. Et aussi, puis ça, je reviens souvent, en tant que professeur en sécurité, je pense qu'on échoue un petit peu à communiquer l'information. Puis on échoue un peu à sensibiliser les gens. Fait que souvent, il y a peut-être une capacité de rendre le message plus loin. Mais,
c'est ça.
Auditeur du podcast,
vous avez une mission. Communiquer!
Et sur ça, on va conclure, puis j'en profite à la fin, parce que j'aime beaucoup mettre des nouvelles à la fin maintenant, parce que ça m'assure que voir si les gens écoutent ou n'écoutent pas l'épisode jusqu'à là. On est en train de changer un peu la formule, on est en train de rénover les choses. Ça fait déjà quelques années qu'on roule, on n'a pas changé le statu quo pendant quelques années. On va profiter de l'occasion de la pandémie, de tout ça, pour changer le statu quo. La fréquence va changer, la fréquence de diffusion aussi devrait s'améliorer. Parce que je vais adapter mes choses en conséquence, mais en même temps, on va adapter un peu les différents éléments, puis j'espère acquérir une plus grande vélocité à travers ça. Sur ça, tu veux quelque chose à rajouter, Patrick?
Hey, bonne pandémie, tout le monde.
Bonne fin de pandémie, soyez sages pendant le déconfinement. Allez pas vous prendre chez les inconnus et prendre des shooters, licher des choses, aller faire des gens.
Il faut faire comme Arruda a dit, il faut mettre un masque si vous rencontrez les inconnus, puis vous êtes tenu avec.
Ouais. Et d'autres choses aussi. Protéger tout ce qui est important. L'échange fluide.
Ah oui. Bye.